Cette conférence est maintenant enregistrée.
Bienvenue à la sixième téléconférence de la MPQ de la saison 2013-2014. Nous tenons à remercier les compagnies Bristol Myers Squibb, Janssen Ortho, Lilly et Sunovion de leur soutien. La conférence sera donnée par le Dr François Primo. Dr Primo est chef du service de gérontopsychiatrie au Centre de santé et de services sociaux Alphonse Desjardins, centre hospitalier affilié universitaire de Lévis. De plus, il est professeur agrégé du clinique du département de psychiatrie et neurosciences de l'Université Laval. Il est reconnu comme fondateur de la surspécialité de gérontopsychiatrie par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Il a été le premier médecin spécialiste à obtenir une bourse du FRSQ pour étudier l'éthique. Il a fondé un service d'éthique clinique à St. Mary's à Montréal. Il est actuellement membre du comité d'éthique de la recherche de son institution. Ses intérêts académiques sont centrés sur les sujets de gérontopsychiatrie et d'éthique. Aujourd'hui, il nous présentera une conférence sous le thème « L'effet sur l'euthanasie pour une réflexion éthique et psychiatrie ». Une période de 15 minutes, de questions de 15 minutes suivra. Bonne conférence. Docteur, à vous la parole.
Merci beaucoup. Alors, je remercie le docteur Assalian de la MPQ et tous les centres qui se sont joints à la conférence pour essayer d'approfondir ce sujet de société qui est d'intérêt pour nous tous, nous qui sommes des personnes qui ont des vitesses diverses vont vieillir et aussi des professionnels de la santé et certains parmi nous sont psychiatres avec un rôle particulier dans ce sujet de projet de loi maintenant qui, comme vous savez, est caduque à cause de l'élection, qui est mort au feuilleton le 5 mars, mais qui néanmoins demeure présent comme préoccupation de la société. Également, je peux vous annoncer tout de suite que, comme vous avez pu constater sur le programme de la MPQ, le 4 juin en après-midi, il y aura deux symposiums qui porteront sur les sujets d'éthique et le 5 juin de 16h à 18h, il y aura un symposium particulier de 2h sur le sujet de l'euthanasie. Également, dans le moment, il y a aussi, comme certains ont pu le constater, il y a un forum de dialogue national sur les questions de soins de fin de vie par l'Association médicale canadienne. Donc, c'est vraiment un sujet d'intérêt pour toutes les personnes. Aussi, même si le projet de loi est mort au feuilleton, les trois chefs des principaux partis se sont engagés à le ramener par la suite. Alors, et il y a une cause aussi en Cour suprême entendue à partir de la Colombie-Britannique qui sera entendue par la suite. Donc, c'est un sujet qui demeure d'actualité pour nous tous. En partant, je mentionne ma divulgation de conflit d'intérêts, donc pas de valeur de compagnie pharmaceutique. Et aussi, je peux dire que dès février 2010, j'ai soumis un mémoire d'expertise à la Commission sur la question spéciale de mourir dans la dignité contre l'euthanasie. Également, j'ai présenté un mémoire personnel lors de la consultation publique en février 2011. Et je suis au Salon Rouge et je suis retourné au Salon Rouge en septembre 2013 comme un des trois représentants du collectif des médecins contre l'euthanasie qui compte plus de 600 signataires. Vous avez l'adresse Internet là, sur les diapos qui vous ont été fournis. Alors aujourd'hui, j'aimerais avoir quelques objectifs. C'est un sujet très vaste. Je vais essayer de me concentrer quand même dans le temps qui m'est imparti. Réviser les faits, parce que vous voyez le titre de ma présentation, c'est « Les faits sur l'euthanasie pour une réflexion éthique en psychiatrie ». Donc, mon propos est d'essayer d'apporter des faits à votre considération pour enrichir votre réflexion personnelle, pour que vous puissiez, en conscience, de façon éclairée, vous déterminer par la suite sur ce sujet qui nous interpelle. Donc, réviser les faits sur l'euthanasie au Québec et dans le monde, dans les pays qui l'ont légalisé, principalement la Belgique et les Pays-Bas. Deuxièmement, reconnaître les aspects psychiatriques en fin de vie qui sont souvent négligés. Et troisièmement, intégrer la notion de dignité parce que c'est un argument qui a été utilisé de part et d'autre avec parfois une certaine superficialité. Donc, essayer d'aborder ce domaine-là également. J'aimerais commencer par une citation qui nous campe un peu l'arrière-fond, si vous voulez, de la réflexion. Elle est de Jacques Attali. Jacques Attali a été le conseiller spécial principal de François Mitterrand et qui écrivait dès 1981, l'année d'arrivée du pouvoir de François Mitterrand, dans l'avenir de la vie, les lignes suivantes qui sont, d'après moi, assez révélatrices du climat de réflexion sur ce sujet-là dans une social-démocratie. Vous savez que le Québec aime beaucoup se targuer d'être une social-démocratie. Alors, Jacques Attali disait, et je le cite, l'allongement de la durée de la vie n'est plus un objectif le souhaitable par la logique du pouvoir. Dès qu'on dépasse 60-65 ans, L'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte alors cher à la société. Du point de vue de la société, il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Je continue la citation. Je suis, pour ma part, en tant que socialiste, objectivement contre l'allongement de la vie parce que c'est un leurre, un faux problème. Et il poursuit, l'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. Ça, c'est 1981. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit. La logique socialiste, c'est la liberté, et la liberté fondamentale, c'est le suicide. En conséquence, le droit au suicide, direct ou indirect, est donc une valeur absolue dans ce type de société. Fermez la citation, les guillemets. Alors moi, dans ma réflexion, est-ce que ça nous décrit le portrait un peu comme Aldous Huxley le disait en 1932 dans « Le meilleur des mondes », où il décrivait les graves menaces pour la société résultant de la collusion du pouvoir politique, du progrès technique et du contrôle par la psychologie, les enjeux neuroéthiques qui sont assez prévalents maintenant au 21e siècle. Il faut savoir également que notre contexte de la société québécoise, qui, comme peut-être certains l'ignorent, est la deuxième plus vieillissante au monde après le Japon. Alors ça, c'était une citation pour ouvrir ma conférence, mais par la suite, regardons les faits et les faits de la mécanique de la façon dont laquelle les sujets ont été amenés sur l'euthanasie dans notre province. Alors, le Collège des médecins du Québec, en février 2010, a déposé un document de 4 pages et demie où il présentait l'euthanasie comme un soin approprié en fin de vie. Et c'est une expression qui va avoir son importance à la fois sur le plan juridique, mais aussi à la fois sur le raisonnement à propos des balises qui peuvent être apportées, parce que, je peux te dire tout de suite, on réalise, dans notre système de soins, où on a un accès universel aux soins, ou en tout cas, on l'espère, si un sujet comme l'euthanasie est présenté comme un soin, il va être très difficile à ce moment-là d'établir des balises pour établir des discriminations entre les personnes qui peuvent recevoir et d'autres qui ne peuvent pas recevoir le soin. Le Collège ne se prononçait pas sur le suicide assisté. Une citation de février 2014 par le secrétaire du Collège, Dr. Yves Robert, qui disait que le projet de loi 52, tel que déposé, était seulement une étape et non pas la fin de la réflexion, qu'il fallait réfléchir à savoir comment ouvrir l'euthanasie pour les patients souffrant d'Alzheimer ou même les mineurs. Donc, c'était déjà là, très clair le mois dernier. Par la suite, on a eu dans les journaux un communiqué qui a été signé à la fois par le Collège des médecins, le Barreau, l'Ordre des notaires, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, signalant que c'était un projet de loi qui était une avancée majeure pour la dignité, pour l'autodétermination des personnes en fin de vie, que la société québécoise était prête à aller de l'avant et que si on posait les balises, ce projet de loi s'inscrivait dans une mission de protection du public. Je cite le communiqué. Alors moi, je vais essayer peut-être, avec des faits, d'amener une certaine réflexion, une nuance à ces propos-là. Également, vous vous rappelez peut-être qu'en août 2010, la Fédération des médecins spécialistes avait fait un sondage sur la question. Il y avait eu 23 % de réponses, 75 étaient pour la légalisation de l'euthanasie avec des balises, ce qui fait un total pratico-pratique de 17,25 % des spécialistes qui ont répondu, qui étaient favorables. Un point à noter qui était très éclairant selon moi, c'est qu'il y avait une grande confusion dans l'esprit des médecins spécialistes sur le sujet, puisque à la question qu'on posait, est-ce que la sédation palliative est de l'euthanasie ou non, 48 % répondaient oui, 48 % répondaient non. Il y avait donc une confusion dans l'esprit des médecins spécialistes sur la notion d'intentionnalité dans cette question, qui, à mon sens, est très importante. Un nombre important aussi de médecins expliquait que les croyances religieuses devaient être prises en compte dans cette question. Évidemment, nos politiciens, étant des politiciens, sont très sensibles aux sondages. Alors, on rappelle souvent que dans les sondages, par exemple, sondage Radio-Canada, novembre 2010, 83 % des sondés étaient pour la légalisation de l'euthanasie, mais 60 % disaient aussi que l'État devait améliorer les soins palliatifs plutôt que de légaliser l'euthanasie. Il est éclairant aussi de constater parfois dans les sondages, on en souligne certains puis on en exclut d'autres. Alors, un sondage Ipsos qui a été fait en septembre 2013 posait la question « Que signifie l'aide médicale à mourir? » Parce que vous constatez que dans le projet de loi 52, la phraséologie qui a été utilisée, c'est « aide médicale à mourir », qui est une expression qui n'a pas de validité scientifique ni juridique nulle part ailleurs au monde. Alors, on posait la question « Qu'est-ce que l'aide médicale à mourir? » 33 % disaient « C'est l'injection d'un produit mortel ». 29 % disaient « c'est soulager la douleur par des soins palliatifs », 22 % « cesser l'acharnement », 16 % « permettre aux patients de s'injecter soi-même un produit mortel », ce qui est la définition du suicide assisté plus tôt. Alors, à mon sens, c'est donc erroné de prétendre que la majorité des Québécois veulent ou sont pour la légalisation de l'euthanasie quand seulement le tiers comprend ce dont il s'agit. Alors, il faut faire attention avec les sondages. Maintenant, si on veut essayer de définir de façon plus stricte l'aide médicale à mourir telle que l'a présenté le projet de loi, vous savez que dans la phase ultime du projet de loi qui est arrivé presque au moment du vote en février 2014, le mois dernier, il y a eu une phase de processus législatif en commission parlementaire de la santé et des services sociaux pour amener des amendements. Et dans un des amendements, à l'article 3, on a donc précisé que l'aide médicale à mourir était un soin qui consistait en l'administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie à sa demande dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Alors, c'est une phraseologie qui est plutôt vague et selon certains, comme le Wayne Sumner, professeur émérite de philosophie à Toronto, ce projet de loi-là permettait en fait ou aurait permis de légaliser à la fois l'euthanasie et le suicide assisté. L'euthanasie étant, de façon très claire, le geste de donner une injection létale. En pratico-pratique, c'est une injection de barbiturique pour amener la sédation, qui est suivie immédiatement après par l'injection d'un curarisant pour bloquer la respiration, entraînant le décès en quelques minutes, 2 à 5 minutes. Donc, l'euthanasie, ça pouvait être aussi, évidemment être sous cette appellation-là, et aussi le suicide assisté parce que administration de médicaments, est-ce que c'est l'administration directe ou l'administration via une prescription? Mais il est clair que l'esprit des législateurs ici, en tout cas, était surtout centré sur l'euthanasie. Moi, dans le reste de ma conférence, je vais parler d'euthanasie parce que dans un éditorial de juin 2010 du journal de l'Association médicale canadienne, les éditeurs suggéraient fortement d'employer des mots qui décrivent exactement les réalités. C'est ce dont j'ai eu l'occasion de parler avec Mme Yvon, Véronique Yvon, qui était la ministre responsable du projet de loi au Salon Rouge, en lui suggérant qu'à mon sens, un projet de loi devait avoir la vertu de clarification et non pas d'accentuer la confusion. Donc, moi, je ne l'accentuerai pas, je vais parler d'euthanasie. Et vous notez tout de suite aussi que l'aide médicale à mourir est libellée, toujours sous le couvert d'augmenter l'autonomie du patient, mais vous rendez bien compte que le patient donne au médecin le droit de lui administrer un produit létal. Donc, l'autonomie ici ne peut s'exercer sans l'hétéronomie, c'est-à-dire le recours à une autre personne qui est ici le médecin. Donc, vous vous rappelez également que la Commission sur la question spéciale de mourir dans la dignité a publié son rapport en 2012, demandait la légalisation par l'Assemblée nationale, une légalisation de fait, je vais y revenir, pas une légalisation dans le droit, mais une légalisation de fait, avec donc un projet de loi qui a été déposé à l'automne 2013, avec un vote final qui était attendu, mais le projet de loi est mort au feuilleton avec la dissolution de l'Assemblée nationale le 5 mars dernier. Alors, en fait, quelle était la visée très précise du projet de loi 52? C'était pour le gouvernement provincial au Québec d'instruire le procureur général, ministre de la Justice, de ne pas entreprendre de poursuite envers un médecin si ce médecin administrait l'aide médicale à mourir, donc l'euthanasie, dans le contexte des balises suivantes. Un résident du Québec, 18 ans et plus, donc on se pose tout de suite la question, bien, pourquoi les 18 ans et moins l'ont pas? Voyez-vous, on établit tout de suite des discriminations dans l'esprit de la loi actuelle pour l'accès aux soins, puisque le législateur a amené cette procédure sous la vocable d'un soin. Donc, 18 ans et plus, apte à consentir. Alors, vous voyez, le mot « apte » ici va tout de suite entraîner le rôle très important du psychiatre dans le processus d'évaluation de l'aptitude, bien entendu, puisque c'est le psychiatre qui évalue l'aptitude. En fin de vie, je l'ai souligné parce que c'est le résultat d'un amendement, ça n'apparaissait pas au projet de loi initial, mais c'est une fin de vie, comme vous le voyez, qui n'est pas définie. Donc, en l'absence de définition de la fin de vie, bien, c'est une ouverture à toutes sortes d'abus ou de dérives. Donc, pour un patient avec une maladie grave et incurable, déclin avancé et irréversible, pour des souffrances psychiques ou physiques constantes et insupportables. Ici, vous notez aussi qu'il y a deux philosophies. La philosophie américaine à l'État de Washington et d'Oregon, où le suicide assisté a été légalisé, se centre surtout sur une période de fin de vie définie chronologiquement comme étant de 6 mois. Par contre, l'approche européenne aux Pays-Bas et en Belgique est plutôt centrée sur des souffrances physiques et psychiques constantes et insupportables, qui est plutôt la visée que le projet de loi actuel a retenue. Et le projet de loi 52 aussi donnait beaucoup de possibilités de directives anticipées devant notaire, devant deux témoins, sans parler du mandat en cas d'inaptitude qui existe bien entendu actuellement. Le médecin traitant, supposons un oncologue, puisqu'on, par exemple, on pourrait parler d'un patient en oncologie en fin de vie, donc le médecin traitant doit demander une deuxième opinion à un médecin qui n'est pas impliqué dans le cas directement, et le médecin traitant peut demander, mais nous, concrètement, tous ceux qui font de la consultation en liaison savent bien qu'ils vont demander une évaluation psychiatrique pour l'aptitude. Pour l'aptitude ici, dans la demande précise de demander la mort pour soi. Et pour aussi évaluer la présence ou l'absence d'une douleur psychologique constante et insupportable. En passant, cette dernière phrase-là fera l'objet évidemment de discussions dans les symposiums de la MPQ en juin, puisque aucune ligne directrice pour ces deux types d'évaluation n'existe à l'heure actuelle. Comme par exemple, nous avons des lignes directrices pour l'évaluation des finances ou de comment faire un testament, par exemple. Le projet de loi prévoyait également que le Collège des médecins et l'Ordre des infirmières devaient amender leur code de déontologie respectif, puisque, évidemment, actuellement, il n'est pas permis pour un professionnel médecin ou infirmière de donner la mort à son patient, ou donc de tuer son patient, ou de lui donner une injection létale. Il y avait une objection qui s'appelait pas objection de conscience, mais objection pour conviction personnelle, entre guillemets. Mais dans tous les cas de figure, les professionnels et le médecin devaient respecter l'article 30 du projet de loi, c'est-à-dire référer au DSP pour que le DSP puisse nommer ou obtenir la participation d'un professionnel ou un médecin qui était d'accord pour administrer l'euthanasie. Également, le Barreau du Québec, dans son rapport qui a été soumis lors des consultations, en page 128-129, parlait de cette consultation en psychiatrie de façon spécifique, en parlant de la nécessité de confirmer l'aptitude à consentir, mais évidemment, ce n'est pas le rôle du barreau de donner au psychiatre des lignes directrices pour l'aptitude, et aussi en parlant de l'absence de maladie psychiatrique. Mais je souligne la phrase suivante, qui est très importante, qui a été écrite dans le mémoire des juristes experts. Vous savez que dans le gouvernement précédent, l'ancien ministre de la Justice, Jean-Claude Fournier, avait demandé à un comité de trois juristes, dont maître Jean-Pierre Ménard et maître Hébert et une autre avocate, de se prononcer sur la question, et ils avaient produit un document de 450 pages. Et au niveau de l'aptitude, ils disaient la phrase suivante, qui à mon sens est très, très importante, « Le caractère raisonnable de la demande d'euthanasie ici, là, le caractère raisonnable de la demande n'influe pas sur la capacité à consentir. » Alors, c'est évidemment très important à considérer puisque le psychiatre aura à évaluer l'état mental du patient. Et évidemment, ici, comme on est dans une procédure où l'issue, c'est la mort, bien, je pense qu'il faut être très, très vigilant et très rigoureux sur l'évaluation. Et vous comprenez que l'aspect raisonnable, à mon sens clinique, est un aspect qui doit être très important dans cette évaluation-là. Alors, pour moi, cette phrase-là est très surprenante puisqu'elle semble inviter quasi le règne de l'irrationnel dans cette demande. Également, les juristes soulignent qu'il devra y avoir la confirmation que la souffrance psychique est présente. Et je reviendrai là-dessus, c'est important tout de suite de constater que même dans le cas de la fin de vie, la littérature scientifique n'a pas de critères établis validement pour la souffrance physique intolérable. Alors imaginez la souffrance psychique intolérable. Et de plus, ce qui me fait sourire, le rapport des juristes dictait la conclusion que le deuxième consultant dans la spécialité en cause devrait écrire, parce que c'est textuel dans le rapport des juristes, en page 129. Le deuxième consultant, entre guillemets, devrait attester dans son rapport de consultation que la condition du patient rencontre les situations exceptionnelles prévues par la loi et que le patient exprime son choix librement et en toute connaissance de cause, fermez les guillemets. Alors, moi, ma remarque, c'est que si tous les consultants inscrivent que la condition du patient rencontre des situations exceptionnelles prévues par la loi, bien, ce n'est pas tellement exceptionnel. Alors, je continue. Également, le rapport du comité des juristes dont je viens de parler soulignait qu'il, pour eux, il n'y avait pas de différence entre, par exemple, l'effet concret de l'action d'un médecin qui débranche le respirateur du patient et l'action du médecin qui donne une injection létale. Et que pour eux, la distinction entre euthanasie active, c'est-à-dire tuer ou donner la mort, et l'euthanasie passive, retrait de soins, est désuète. Personnellement, j'emploie l'expression euthanasie dans le sens d'euthanasie active. Un retrait de soins, c'est un retrait de soins. On n'ajoute pas à la confusion des expressions. les juristes disaient, il en est de même de la distinction entre action et omission. Moi, je déplorais beaucoup qu'on ignore la notion d'intentionnalité dans toute cette discussion. Le rapport de la commission spéciale elle-même a ignoré la notion d'intentionnalité et je trouve que cette notion-là est capitale dans l'évaluation de l'arrêt de soins, par exemple, ou de l'injection létale. C'est une notion, évidemment, qui n'est pas nouvelle, dont Aristote a même parlé dans l'éthique à Nicomaque, et que même tout récemment, dans le Oxford Handbook of Neuroethics, c'est un handbook de 900 pages, on parle en première partie, premier chapitre, conscience et intention. Donc, à mon sens, négliger l'intentionnalité pour l'appréciation éthique d'un retrait de soins ou d'une injection létale et ignorer un des fondements de l'appréciation d'un acte éthique. Et ça, à mon sens, c'est un vice fondamental dans le projet de loi qui était présenté. Un autre point, vous vous rappelez au début que les ordres professionnels soulignaient qu'il y a un consensus au Québec. C'est intéressant parce qu'évidemment, il y a plusieurs, c'est une commission, comme peut-être certains d'entre vous ont été au courant, qui s'est promenée dans la province en consultation publique, qui a généré un grand intérêt, et il y a eu 427 mémoires, interventions et questions sur le sujet. Les faits nous disent que 59,5% de toutes ces interventions étaient contre la légalisation de l'euthanasie, 35% pour, 5,5% avaient une opinion qui n'était pas clairement tranchée. Alors, devant ce fait-là, que près de 60% des opinions exprimées en commission et devant la consultation publique étaient contre, on peut se poser la question si 60% contre signifie un consensus pour la légalisation de l'euthanasie. Alors, Margaret Somerville, que plusieurs connaissent, qui a été une des fondatrices du McGill University Center of Medicine, Ethics and Law, a jugé que pour elle, ce projet de loi-là, dans le contexte où 60% des interventions étaient contre la légalisation, un projet de loi qui arrivait pour la légalisation, elle exprimait un agenda idéologique a priori favorable pro-euthanasie. Évidemment, un autre aspect, pour tous ceux qui sont en formation et pour tous les centres universitaires qui donnent une formation aux résidents et aux étudiants dans les diverses professions, c'était l'aspect de l'enseignement de l'euthanasie, si vous voulez. Alors, Donald Boudreau, qui est un vice-doyen de la Faculté de médecine à McGill, disait dans un article en 2011, « Pouvons-nous même imaginer qu'on enseigne aux futurs médecins comment mettre fin à la vie de leurs patients? » Et en 2012, lors d'un symposium sur le sujet, le premier symposium sur l'euthanasie qui a lieu à la MPQ lors de la rencontre de 2012 à Québec, un des résidents qui travaillait avec moi à ce moment-là, Félix Carrier, disait « Est-ce que l'attitude du résident sera calquée sur celle du patron du jour? » Alors, un patron est pour, on y va, un patron est contre, on ne le fait pas. Évidemment, on sent que sur un sujet aussi fondamental, il faut asseoir l'expertise psychiatrique et éthique sur des critères qui sont académiquement reconnus, ce qui n'est pas le cas présentement. Vous comprenez également que si l'euthanasie est un acte légalisé dans le contexte juridique, inscrit dans la formation des résidents et des externes, il apparaîtra également au curriculum des facultés de médecine et aussi des organismes d'accréditation, par exemple, comme le Collège Royal. En plus, j'en parle pas ici, mais il faut être très concret, c'est un soin qui est un acte reconnu, bien, on aura un code RAMQ avec une rémunération. Mais ça n'a pas été discuté à l'heure actuelle. C'est aussi particulier, à mon sens, de pousser rapidement la question de la légalisation de l'euthanasie dans le contexte canadien et québécois où, selon des rapports sénatoriaux au Canada très établis en 2010, la sénatrice Carstairs disait que 70% des Canadiens n'ont pas accès aux soins palliatifs et on a les mêmes chiffres au Québec. Dans mon milieu immédiat, moi je suis à l'Hôtel-Dieu de Lévis, comme on vous a dit, depuis 2003, il y a un effort pour obtenir une unité de soins palliatifs. En février 2014, le mois dernier, les responsables ont même commencé une pétition publique qui est apparue dans les médias, parce qu'en 2014, on n'a toujours pas d'unité de soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui est un centre reconnu régional maintenant en cancérologie. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. Et aussi, c'est intéressant de noter que 88% des médecins qui œuvrent en soins palliatifs sont contre la légalisation de l'euthanasie. Aussi, pour la question du côté exceptionnel du nombre que ça pourrait impliquer, il faut savoir que selon l'Institut de la statistique du Québec, en 2012, on avait au Québec 60 800 décès par année. Alors, si on prend les pourcentages de 1 % de décès par euthanasie en Belgique ou jusqu'à 3 % de décès par euthanasie aux Pays-Bas, mais avec ces chiffres-là, on aurait eu en 2012, avec la légalisation de l'euthanasie, de 600 à 1800 décès. Alors, en Belgique, ça équivaut à 64 euthanasies par mois. Donc, dans mon sens, ce n'est pas une exception aussi exceptionnelle que cela. Aussi, un article récent publié dans le Lancet à propos des soins palliatifs en février 2014 disait qu'il y a beaucoup de préjugés à propos des soins palliatifs. Vous comprenez, évidemment, au Québec, dans le moment, à cause de la raréfaction de la ressource, souvent, malheureusement, les patients soit décèdent dans des lits actifs à l'hôpital, parfois même dans des chambres à quatre, ce qui est vraiment semble tout à fait inapproprié. Parfois, sont transférés dans des chambres seules, mais dans les dernières heures de l'agonie, si vous voulez. Et souvent, ont accès à des lits ou des unités ou des maisons de soins palliatifs dans les derniers jours, voire le dernier jour de leur vie, ce qui vraiment fausse toute la perspective, puisque l'accompagnement des soins palliatifs devrait avoir lieu dans les dernières semaines de fin de vie, dans des milieux appropriés, pas dans des milieux de soins aigus hospitaliers. Et il y a cette étude-là, publiée dans le Lancet en 2014, disait que dans 24 services d'oncologie avec 461 patients évalués, si on avait un accès précoce aux soins palliatifs à 4 mois par la suite, on avait une augmentation des scores de qualité de vie, un meilleur contrôle des symptômes et une augmentation de la satisfaction des soins reçus. Donc vraiment, l'approche de la généralisation et de l'accès précoce aux soins palliatifs semble une nécessité clinique qui devrait primer sur l'introduction rapide de la légalisation de l'euthanasie, à mon sens personnel. Également, on ne peut pas ignorer les faits juridiques au Canada. Donc, c'est important, peut-être pour certains, il y a une confusion. Vous savez qu'au Canada, le code criminel est de juridiction fédérale. La province n'a pas juridiction sur le code criminel. Le code criminel fédéral dit à l'article 222 « commet un homicide qui compte directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d'un être humain ». Le mot « euthanasie » n'apparaît pas au code criminel, c'est un homicide. À l'article 241, « est coupable d'un acte criminel et passible d'un maximum de 14 ans de prison, quiconque conseille à une personne de se donner la mort ou l'encourage et l'aide concrètement à se donner la mort, que le suicide s'en suive ou non ». Donc, les paramètres juridiques sont très clairs. Dans les derniers 10 ans, il y a eu 3 tentatives au Parlement fédéral pour modifier le code criminel à ce sujet, la dernière étant en avril 2010. Elle a été défaite par 228 votes contre la modification du code criminel et 59 pour. Donc, et ce n'est pas une question de parti, c'était généralisé. Donc, on s'aperçoit qu'au niveau de la modification du code criminel du Canada, dans le moment, c'est une voie qui n'a pas été acceptée par les parlementaires canadiens. D'autre part, vous constatez également que ce projet de loi-là a été présenté comme un soin, peut-être avec un arrière-plan de contestation juridique, où là, on aurait pu invoquer le fait que le soin dépend des politiques de la santé qui sont sous administration provinciale. Comme vous vous rendez compte aussi, et comme la province n'a pas juridiction pour modifier le code criminel, le projet de loi tel que présenté ne pouvait que suggérer au ministre de la Justice des balises pour ne pas intenter de poursuite contre un médecin qui aurait fait un acte d'euthanasie, toujours dans le contexte général où le code criminel n'est pas amendé et s'applique. Donc, c'est important de faire la distinction. Si on prend un regard, si vous voulez, plus général, historique et géographique, on s'aperçoit évidemment que le mot « euthanasie », c'est peut-être une des raisons pour laquelle le projet de loi a retenu l'expression « aide médicale à mourir », est un mot qui a une connotation péjorative puisqu'il a été utilisé dans les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Également, c'est important de se rappeler, parce que certains peuvent le croire à tort, il n'y a pas de droit à la mort juridiquement reconnu dans aucune constitution, charte des droits national ou international. Donc, l'ONU, dès 1948, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, rappelait à l'article 7, tout individu a droit à la vie. C'est la même libellé quasi dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales de la Convention européenne des droits de l'homme 1950, amendée en 2010, mais qui dit à l'article 2, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. De fait, actuellement, dans le monde, il n'y a pas une marche triomphale pour l'euthanasie. Il y a 3 juridictions où l'euthanasie est légalisée, ce qui couvre 27 500 000 personnes, donc 0,45 % de la population mondiale. les Pays-Bas, où l'euthanasie a été de fait légalisée ou acceptée ou tolérée depuis 1980 et déjurée, donc en droit légalisé en 2002, la Belgique, où l'euthanasie a été légalisée en 2002, et le Luxembourg, où l'euthanasie a été légalisée en 2009. Le Luxembourg a une population de 750 000 personnes de la taille de la communauté urbaine de la ville de Québec. Également, le suicide assisté est légal en Oregon depuis 1997, et dans l'État d'Oregon et dans l'État de Washington aux États-Unis depuis 2009. Aussi, il faut ajouter que le suicide assisté est toléré en Suisse depuis plus de 50 ans. Il faut rappeler, je rappelle quelques éléments parce qu'il y en aurait beaucoup. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté en 2011 le suicide assisté, que 193 pays dans le monde n'ont pas la légalisation de l'euthanasie et 3 pays l'ont. L'Association médicale mondiale, qui représente 9 millions de médecins dans 106 États membres, s'est prononcée en 2013 contre la légalisation de l'euthanasie. Également, vous vous rappelez que François Hollande, qui était élu en 2012, je crois, à la proposition 21, avait fait, sans le nommer clairement, l'euthanasie, mais avait fait la proposition de faire une ouverture vers la légalisation de l'euthanasie. Alors, il avait instruit le professeur Sicard, qui est l'ancien président du Comité consultatif national d'éthique, qui a été établi en France en 1983 par François Mitterrand, de produire un rapport qui a été rendu public en décembre 2012. Et je cite quelques phrases de ce rapport parce que je crois qu'elles sont pertinentes. Le rapport Sicard disait donc, et je le cite, « C'est une utopie de penser pouvoir enfermer une pratique comme l'euthanasie dont il parlait comme étant un geste radical. Donc, enfermer une pratique dans une loi et la mort dans des limites. On sait bien qu'il est impossible de déterminer des critères. Toute loi est débordée le jour même par une autre situation et en appelle une nouvelle. » D'autre part, Marie de Hennezel, c'est une psychologue qui a été la première psychologue dans la première unité de soins palliatifs en France qui a été ouverte par le professeur Maurice Abivern en 87 à l'hôpital de la Cité universitaire à Paris. J'ai connu le professeur Abivern quand j'ai fait mon fellowship d'éthique en Belgique à la fin des années 80, début des années 90. Et Marie de Hennezel, dans un volume qui a été publié en 2013, à la fin 2013, rappelait que la loi, selon les juristes, est faite pour le bien de tous. Et je la cite, « pas pour céder aux revendications d'un petit nombre d'intellectuels encore bien portants, obsédés par leur désir de maîtriser leur mort, fort habiles par ailleurs à jouer sur les peurs légitimes de leurs contemporains pour obtenir une large assise à leurs revendications individualistes. » Fermez les guillemets. Donc, je cite ceci parce qu'on a senti, dans les dernières années, une grande pression et une grande faveur ce qu'on pourrait appeler dans notre milieu québécois les élites politico-médiatiques en faveur de la légalisation de l'euthanasie, mais dans un contexte où je viens de rappeler, les soins palliatifs sont accessibles pour 30 % de la population et seulement 33 % de la population comprend ce dont il s'agit. Également, j'aime beaucoup citer cette phrase de François Mitterrand que Marie de Hennezel rapporte. François Mitterrand, donc élu en 81, a aboli la peine de mort en France en 1981. Et François Mitterrand avait dit, « Je n'ai pas aboli la peine de mort pour la réintroduire par l'euthanasie, c'est moi qui l'ajoute, sous une autre forme. » Donc, je n'ai pas aboli la peine de mort pour la réintroduire sous une autre forme. On ne va tout de même pas donner légalement à une profession le droit d'administrer la mort, non. Ça, c'est François Mitterrand. Et son garde des Sceaux, donc ministre de la Justice, qui avait collaboré pour l'abolition de la peine de mort, était Robert Badinter. Et Robert Badinter disait que le pouvoir d'administrer la mort au nom d'une autonomie prétendue mais non vérifiable peut aussi servir des pratiques eugéniques d'élimination de personnes qui coûtent cher et ne rapportent rien. Robert Badinter disait aussi « Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie » et il dénonçait la fureur, c'est son expression, la fureur de légiférer pour répondre à l'appel médiatique. Donc, le contexte juridique, j'en ai parlé brièvement. Depuis les années 2000, trois projets de loi à Ottawa défaits pour décriminaliser l'euthanasie par modification du code pénal. Il y a eu une cause en cours d'appel de la Colombie-Britannique qui est maintenant en cours devant la Cour suprême suite au cas Carter où la Cour locale de la Colombie-Britannique avait ordonné au Parlement fédéral de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, et c'est présentement devant la Cour suprême. Il y a eu un cas aussi au Québec en 2013, mais la dame Leblanc de Trois-Rivières est décédée avant que le cas ait pu parvenir devant les tribunaux, et j'ai expliqué la mécanique du projet de loi 52, donc qui est mort au feuilleton au début mars 2014. On ne peut pas ignorer non plus le contexte démographique. Alors, j'ai parlé que nulle part ailleurs au monde, sauf au Japon, la situation démographique est aussi alarmante qu'au Québec. C'est le livre blanc sur la création de l'assurance autonomie du ministre actuel, ministre Hébert de la Santé, qui le dit textuellement. Si on regarde les chiffres, de 2013 à 2031 au Québec, la population globale augmentera de 11 % pour atteindre 8,8 millions. Les 65 et plus augmenteront de 80 % pour passer de 1,25 à 2,26 millions, soit le quart de la population du Québec en 2031, 25 %. Les 20 ans et moins augmenteront de 4 % et les 20 à 64 ans diminueront de 4 % et il faut souligner que pour la première fois en 2014, le nombre absolu des 15 à 64 ans diminue dès cette année. C'est ce qu'on appelle le choc démographique qui est en marche, avec aussi déjà les pénuries qui se font sentir au niveau de la main-d'œuvre. Par ailleurs, évidemment, le contexte démographique est lié également au contexte économique. Alors, dans les représentations prébudgétaires du budget qui a été déposé avant le déclenchement des élections, l'Association québécoise des établissements de santé et des services sociaux disait au début février 2014 qu'il faudrait injecter une somme de 1,2 milliard, dont 834 millions d'argent neuf, pour atteindre l'équilibre en 2014-2015. Ces sommes nécessaires pour maintenir, pas élargir, mais maintenir les services actuellement offerts, ça, c'était les représentations prébudgétaires. Dans le contexte où le budget déposé, mais non discuté en chambre à cause du déclenchement des élections, le budget déposé, lui, prévoyait pas l'injection, mais la coupure de 400 millions de dollars. Donc, on s'aperçoit que dans le contexte déjà actuel de la démographie, la poussée démographique vers le vieillissement, on a déjà des grandes problématiques actuelles de financement de nos soins de santé actuellement. Et c'est une question que j'avais évoquée au Salon Rouge, dans mes comparutions devant la commission. Est-ce que l'euthanasie pourrait être le régulateur démographique du fardeau économique à venir? Et lorsque j'avais soulevé cette question, j'avais rencontré une certaine incrédulité de la part des députés qui étaient présents. Mais en fait, très clairement, en Australie, en 2010, l'euthanasie a déjà été évoquée par la Commission de planification économique de l'Australie. L'euthanasie a été évoquée en Australie comme une mesure de contrôle des coûts face à l'augmentation très rapide des coûts pour le soin de la santé chez les personnes âgées en Australie. Donc, je pense que dans le contexte démographique et économique, c'est une question qui peut être posée. Au niveau des aspects cliniques, comme j'ai mentionné, il n'y a pas de définition scientifiquement acceptée de la douleur intolérable dans le contexte d'une demande d'euthanasie. Alors ça, c'est un point qui est académiquement dans la littérature établie. Il n'y a pas de définition de la douleur physique intolérable, encore moins de la douleur psychique intolérable. Et je rappelle aussi que c'est souvent dans les contextes où la douleur est plus importante, dans une étude ici de 2009, où l'anxiété et la dépression sont 2 à 3 fois plus présents chez des patients qui sont plus souffrants physiquement. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que dans toute la discussion sur l'euthanasie, les facteurs psychiatriques et psychologiques, à mon sens, ont été méconnus d'une façon assez stupéfiante. Une étude des années 2000 nous montre que la dépression en phase terminale touche de 20 à 50 % des patients, mais seulement 3 % des patients sont traités. Également, une étude parue dans The Journal of Clinical Oncology en 2005 rapporte que les patients déprimés demandent l'euthanasie de 4 à 5 fois plus. Alors évidemment, pour un psychiatre, ou en tout cas pour tous les professionnels en santé mentale, on peut se rendre compte que l'euthanasie n'est pas la bonne réponse à la dépression. Également, il y a une ignorance du syndrome qui est appelé la démoralisation psychospirituelle. C'est un syndrome qui a été défini par Kissane. Kissane, c'est un Australien qui travaille maintenant au Sloan Kettering à New York, un des plus grands hôpitaux au monde en cancérologie. Et il s'agit ici d'un syndrome qui n'est pas la dépression, une durée de moins de 2 semaines, pas de diagnostic de dépression, mais où il y a une perte du sens et de l'espoir. Il n'y a pas d'anhédonie, mais le patient souffre d'impuissance, perte de motivation, isolement psychosocial, et il y a des souhaits de mort. Donc, c'est des syndromes qui peuvent être traités également. Shoshinov, qui est le titulaire au Manitoba de la seule chaire canadienne de recherche en soins palliatifs, dit que 44,5 % des patients en soins palliatifs demandent à mourir, mais qu'au bout de 2 semaines, 50 % changent d'idée, principalement à cause de symptômes dépressifs ou dyspnéiques non soulagés. Et moi, ça me pose question parce que selon les données gouvernementales des Pays-Bas, 65 % des décès par euthanasie aux Pays-Bas arrivent en moins de 2 semaines après la demande. Donc, on se demande si le patient n'aurait pas eu le temps de changer d'idée dans 50 % des cas à cause d'une pathologie traitable. Il faut aussi rappeler notre contexte québécois du suicide. Alors, vous savez que dans les derniers Jeux olympiques, le Québec a brillé par la médaille d'or au ski à bosse, c'est très bien. Cependant, on brille aussi par la médaille de bronze au niveau des suicides au monde, c'est peut-être moins bien. Alors, les statistiques nous révèlent qu'on a 13,8 par 100 000, les statistiques de 2004. Les dernières statistiques, c'est 13,7, donc c'est à peu près stable. On est à peu près toujours les troisième ou quatrième au monde pour le taux de suicide. Et vous avez les statistiques, évidemment, tous les professionnels impliqués sont bien au courant de ces cas-là. Peut-être l'importance, hein, dans les 10 dernières années, il y a eu 13 000 suicides au Québec et il y a un quart de million de personnes en deuil, donc des membres de la famille endeuillés. En 2011, il y a eu 1105 tentatives de suicide, et 28 000 tentatives. Alors, c'est une problématique de santé mentale qui, à l'évidence, n'est pas contrôlée. Et dans le contexte actuel, on peut se poser la question si l'introduction de la légalisation éventuelle de l'euthanasie pourrait venir miner les efforts de toutes les équipes en santé mentale qui s'attachent, bien sûr, à combattre les idées suicidaires et les comportements suicidaires des patients. Je rapporte aussi qu'en Oregon, où je vous ai dit que le suicide assisté était légal depuis 1997, il y a une augmentation depuis les années 2000 du taux de suicide. Je ne parle pas du suicide assisté, mais du taux de suicide chaque année, de telle sorte que 13 ans après la légalisation du suicide assisté, donc en 2010, le taux de suicide à l'Oregon, en Oregon, est de 35 % fois plus élevé que le taux moyen des États-Unis. C'est quand même intéressant. Aussi, je rapporte que le nombre de suicides assistés augmente, il est dans plus 30 % depuis 2009, et aussi, dans l'introduction du projet de loi, tout comme dans le projet de loi actuel au Québec, ou qui était présenté, on introduisait la référence en psychiatrie. Ce que je constate, c'est qu'en Oregon, le nombre de références aux psychiatres pour les cas de suicide assisté est en constante diminution année par année, soit qu'on a 0, 1 ou 2 cas. En 2012, sur 77 suicides assistés, on avait 2 cas référés aux psychiatres. Alors, on s'aperçoit que le mécanisme de référence aux psychiatres dans les faits n'est pas tellement appliqué. Il faut aussi considérer ce que j'ai appelé les dérives. Alors, on a beaucoup parlé de l'hypothèse des dérives. Moi, j'aime présenter des faits qui nous portent à penser que les dérives ne sont pas une hypothèse, mais vraiment des faits qui surviennent. Alors, un événement qui est très frappant, c'est qu'à la même semaine, à la mi-février 2014, le mois dernier, où on présentait le projet de loi pour le vote, en Belgique, qui a légalisé en 2002, on présentait en février 2014, et ça a été voté et accepté, l'extension de l'euthanasie aux mineurs sans restriction d'âge. Donc, ça veut dire qu'un enfant de 5 ans, théoriquement, pourrait demander l'euthanasie. Il y avait un mécanisme de validation du discernement par un psychologue ou un psychiatre. Je rappelle aussi que d'habitude, dans la majorité des juridictions, on ne peut pas conduire la voiture, voter ou se marier avant d'avoir 18 ans ou 16 ans, ça dépend des juridictions. Donc, ça paraît être pour le moins paradoxal. Et selon Jürgen Habermas, qui est un philosophe très connu, on parle de rupture de digue avec l'euthanasie et un professeur de philosophie de l'Université de Louvain où j'ai étudié disait « Une fois le pas transgressif franchi, un basculement des mentalités s'opère inévitablement et une culture euthanasique s'installe. » Dans les faits, un collègue des soins palliatifs avec lequel j'ai présenté en septembre 2013 au Salon Rouge avait fait une visite en Belgique en 2012 et disait qu'il avait vraiment constaté un effritement des soins palliatifs. Les équipes, les professionnels démissionnent, l'appellation soins palliatifs est modifiée pour d'autres appellations. Donc, il y a vraiment un délitement dans les faits de l'existence même des soins palliatifs. Les statistiques des pays concernés, donc les statistiques gouvernementales officielles des Pays-Bas, nous disent que de 2006 à 2012, l'euthanasie a augmenté, ou les cas d'euthanasie, de 117 %. Vous voyez les chiffres de 1900 quelque chose à 4000 et plus en 2012 pour atteindre 3 % des décès. Un point qui est préoccupant, en 2012, il y a eu 14 patients avec pathologie psychiatrique qui ont reçu l'euthanasie, en 2013, 45. Je vous rappelle qu'aux Pays-Bas, depuis 1994, il y a eu un cas de dépression majeure et pour lequel la dépression majeure a été acceptée comme une condition légitime pour recevoir l'euthanasie. Donc, aux Pays-Bas, depuis 1994, les patients déprimés avec dépression majeure peuvent recevoir légalement l'euthanasie. Également, aux Pays-Bas, en 2012, il y avait 42 patients avec démence qui ont reçu l'euthanasie. En Belgique, c'est plus frappant encore parce qu'en 2002, année de la légalisation, il y a eu 17 décès par euthanasie. En 2011, ça fait 1133 décès. Moi, j'ai fait mon calcul, ça fait 6500% d'augmentation. C'est un gros chiffre. Et donc, il y a 5000 euthanasies depuis 2002, 64 par mois, 52 surviennent à domicile et 3% seulement suite à des directives anticipées. Une méta-analyse dans l'ANSET en juillet 2012 disait, et ça c'est préoccupant, parce qu'en commission parlementaire, on m'a posé la question, avez-vous confiance aux médecins? Alors, j'ai dit non, parce que, c'est paraît paradoxal, mais dans ce sujet-là, j'ai une confiance partagée, parce que la littérature, les données nous disent que 23% des euthanasies ne sont pas rapportées par les médecins, telles que la loi néerlandaise le demande aux Pays-Bas. Et que même en Belgique, c'est dans une autre étude, c'est 47-50%. Donc, si on ajoute on majore le nombre de 4000 euthanasies en 2012, en 2012 aux Pays-Bas, on arriverait plutôt à 5000 puisque 20% ne sont pas rapportés. Également, il y a des décès par sédation continue. Alors, la sédation continue, qui est une procédure où on induit une sédation pour une douleur qui ne peut pas être contrôlée autrement. Mais vous comprenez également que la sédation peut être induite avec une intentionnalité de donner le décès et non pas seulement avec une intentionnalité de soulager les souffrances. Alors, cette modalité-là a augmenté pour atteindre 5 % des décès en 2001, mais 12 % des décès en 2010. Et aussi aux Pays-Bas, cela n'inclut pas les enfants qui sont décédés depuis 2005 selon le protocole de Groningen. Le protocole de Groningen, c'est un protocole qui permet l'euthanasie des enfants handicapés. Alors, je vois que l'heure avance. Je vais seulement peut-être passer plus rapidement sur les diapos qui restent pour vous donner un autre exemple, par exemple aux Pays-Bas, d'un cas qui actuellement, pour la première fois, pose question publiquement. Alors, c'était une patiente de 35 ans avec problème psychiatrique de dépression conique. Cette patiente-là a demandé l'euthanasie à son médecin de famille qui s'est senti inconfortable ou pas d'accord, qui a consulté un autre médecin indépendant qui a donné également un avis négatif parce qu'on soulignait que des options de traitement existent pour la dépression chronique. Et finalement, ce médecin de famille a consulté un troisième médecin, un psychiatre, et qui, en seulement 2 semaines, a établi que le psychiatre avait conclu que les problèmes psychiatriques de dépression chronique de la patiente étaient intraitables et que l'euthanasie était légitime. Et 2 jours plus tard, le 19 décembre 2012, la patiente est décédée par injection létale. Alors, on peut se poser la question de la bonne pratique et d'obéissance ou de l'adhérence aux lignes directrices en psychiatrie pour traiter la dépression majeure. Et même le psychiatre dont je parlais tantôt, qui a été le psychiatre à l'origine du cas de dépression majeure en 1994, qui a amené la légalisation pour la dépression majeure aux Pays-Bas, qui est pro-euthanasie, lui-même disait en 2014 actuellement, la loi sur l'euthanasie a déraillé. L'ONU s'est élevée contre le nombre élevé d'euthanasies de suicides assistés aux Pays-Bas, en s'inquiétant de la toute-puissance du médecin, puisque vous vous rendez compte que le médecin est à la fois l'expert qui établit l'incurabilité, qui décide, qui exécute l'euthanasie. Alors, c'est vraiment un problème au niveau de la toute-puissance. Également, suite au vote qui a étendu l'euthanasie aux mineurs en 2014 en Belgique, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'est vraiment élevée contre ce fait et a réaffirmé l'interdiction absolue de mettre fin intentionnellement à la vie de personnes en fin de vie ou de mourants avec des résolutions à cet effet. Je vais avancer. Donc, pour la fin, je vais conclure rapidement. La question de la dignité, évidemment, est très complexe. Et est-ce qu'on peut perdre la dignité quand on arrive à un état de déchéance, soit dans la vieillesse ou à l'approche de la mort? Alors, évidemment, on peut souligner une confusion entre dignité qui renvoie à la notion de personne et qui serait liée à l'être même de la personne, avec la dignité qui serait vue comme susceptible de disparaître avec la dégradation physique ou le vieillissement. Sophocle, il faut retourner parfois à nos classiques, donc dans Antigone, soulignait que l'appartenance à une commune humanité était très importante au nom de lois non écrites, de lois inébranlables qui précèdent les lois positives, c'est-à-dire les lois votées par les députés, qui ça veut dire, c'est en français courant, donc liées à l'humanité même de la personne. Paul Ricoeur le disait dans un langage plus contemporain, quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est un être humain. Alors, on voit 2 conceptions. Selon une conception, on peut perdre sa dignité puisque c'est à chacun de définir pour soi ce qu'il considère comme digne ou indigne à vivre. Je suis déprimé, je ne vaux plus rien, donc vraiment, est-ce que cette personne ne vaut plus rien? Et vous comprenez que ça a des inférences assez importantes, parce que, par exemple, je suis une victime dans une relation pathologique, je me sens coupable, responsable, c'est erroné dans les faits, je me dévalorise, mais donc, je ne vaut plus rien. Ou aussi une autre vision où on pourrait perdre la dignité parce que nous recevrions notre dignité d'abord du regard que les autres portent sur nous. Alors, quelle dignité y aurait-il pour les sans domicile fixe, pour les patients psychiatriques, les patients avec démence, les patients qui ne sont pas, qui ont pas, qui, sur lesquels plusieurs personnes ne portent pas un regard avec beaucoup de dignité? Alors, c'est une façon de concevoir. Moi, personnellement, je préfère la notion que non, on ne peut pas perdre sa dignité. La dignité est inaliénable, elle est liée à l'humanité même de la personne. Et rappelez-vous, plusieurs personnes soulignent, bien moi, si je suis dans un état de déchéance avancée, que je ne peux plus satisfaire à mes soins d'hygiène, concrètement, qu'on doit m'aider pour mes soins d'hygiène les plus fondamentaux, je considère que j'ai plus de ma dignité. Quel message envoyons-nous à ce moment-là à des personnes handicapées de tout âge, même parfois très jeunes, par exemple, suite à un accident de voiture, qui, dans les faits, concrètement, tous les jours, doivent recevoir de l'aide pour des soins d'hygiène de base? Est-ce que ces personnes ont de facto perdu toute dignité? Je vous suggérerais, si vous êtes intéressé par un écrit plus développé et qui, à mon sens, fait vraiment le tour de la question de la dignité d'une façon vraiment réfléchie, parce qu'on a souvent fait passer dans toute la question de la consultation publique sur le projet de loi beaucoup d'émotions qui sont importantes à prendre en compte, mais peu d'arguments de raison. Alors, l'ouvrage de Thomas de Coninck sur la dignité humaine, paru en 1996 et qui a été couronné par l'Académie française en 2002, Thomas de Coninck est un professeur à la faculté de philosophie de l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche pour la philosophie dans la société contemporaine. Alors, je vais avancer. Alors, certains philosophes comme Jacques Ricot de Nantes disent que quand la personne souhaite l'euthanasie en disant qu'elle n'a plus sa dignité, cela ne signifie pas qu'elle a perdu sa dignité, mais qu'elle a perdu sa confiance ou son estime en elle-même. Et je conclue par cette diapositive-ci qui est intéressante, puisqu'elle est une citation en 2012 dans Le Monde de deux personnes. L'un est Louis Pubaillet, qui est un directeur d'une unité de neuro-réanimation à la Pitié-Salpêtrière. Ça, dans notre langage, c'est une unité de soins intensifs. Et Claude Évin, qui est un ancien ministre socialiste des Affaires de sociales et de la Santé, qui tous les deux disaient la phrase suivante. Ce que l'on présente comme une idée progressiste, l'euthanasie, qui pouvait encore faire illusion dans les années 70 lorsque les moyens de lutte contre la douleur étaient limités et les médecins souvent enfermés dans la toute-puissance, est un concept devenu archaïque actuellement, moi j'ajoute, par le contrôle satisfaisant que l'on peut avoir de la douleur dans des unités appropriées et avec des médecins formés de façon appropriée. Alors, ce qu'on présente comme une avancée des droits et un progrès, est-ce que paradoxalement, ça ne pourrait pas être un recul archaïque dans un contexte surtout où la majorité des patients en fin de vie n'ont pas accès à des soins palliatifs de qualité? Je vous remercie et je vais prendre vos questions.
Merci, Dr. Primo. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la période de questions. Pour poser une question, appuyez sur étoile 1. Pour retirer votre question, appuyez sur étoile 2. Donc, je répète, si vous désirez poser une question, appuyez sur étoile 1. Si vous désirez la retirer, appuyez sur étoile 2.
Des questions?
Nous avons une question qui provient de la ligne de Dr. Pierre Asselin. À vous la parole.
Oui, bonjour, François, c'est Pierre Asselin. Merci beaucoup. Est excellente. Et je réitère ta position, surtout dans les cas de dépression et dans le cas où m'intéresse, moi, dans la dysphorie du genre, où il a été rapporté en Belgique un cas d'un transgenre qui n'était pas satisfait de l'issue de l'opération, a demandé l'euthanasie et ils l'ont accordé. Alors ça, je trouve ça épouvantable. D'ailleurs, toute la question sur l'évaluation des transgenres et combien de temps, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que vraiment la solution est toujours l'opération. Alors ça, c'est pour nous les psychiatres, on doit prendre une position très claire vis-à-vis ces patients qui souffrent d'une dépression et qu'on décide que il n'y en a pas grand-chose à faire.
Moi, Pierre, je te remercie beaucoup pour ta question, Pierre. C'est très important ton commentaire. Je rappelle aux gens que Dr. Asalian est un spécialiste des questions du genre à Montréal. En effet, c'est tout à fait juste qu'il y a eu un cas d'euthanasie pour une personne avec transgenre qui n'était pas satisfaite de sa condition. Je pourrais souligner qu'il y a une patiente jeune dans la trente-quarantaine qui a été euthanasiée pour anorexie. Un cas également assez surprenant que je mentionne, qui est des jumeaux de 45 ans en Belgique qui étaient sourds de naissance, donc qui habitaient ensemble, des gens en bonne santé physique, qui étaient des cordonniers, et qui ont été diagnostiqués avec un processus de glaucome, mais qui, dans leur cas, aurait amené à une cécité assez rapidement. Ces gens-là se sont dit, nous souffrons d'une souffrance psychologique intolérable, on a assez de ne pas s'entendre, s'il faut en plus ne pas se voir, c'est intolérable. Alors, ils ont commencé leur magasinage en Belgique de centres hospitaliers, on leur a dit, bien non, vous ne qualifiez pas selon la loi, mais finalement, le 14 décembre 2012, ils ont trouvé un centre hospitalier où on a euthanasié ces gens-là. Leurs parents et leurs frères et sœurs n'ont pas pu rien faire. Ils ont été euthanasiés. Également, je rapporte un autre cas qui me vient à l'esprit d'une dame de 80 ans et plus qui souffrait de dépression dans la ligne de ce que dit Dr. Asalian. Et son fils, qui est un professeur donc qui s'appelle M. Tom Mortier, M-O-R-T-I-E-R, qui est venu témoigner au Québec d'ailleurs dans certaines conférences, a reçu un appel un matin lui disant « Bonjour monsieur, votre mère a été euthanasiée hier ». Alors, il n'était pas au courant, et évidemment, avec le choc qu'on peut concevoir. Donc, je crois, et je serais d'accord avec le Dr. Asalian, qu'il est important pour les psychiatres, en particulier pour toutes les conditions psychiatriques, de vraiment préciser que l'euthanasie n'est pas un traitement recommandé et reconnu pour des conditions psychiatriques. J'aurais une question, Sana, qui vient d'ici, de l'Hôtel-Dieu de Lévis, et je pourrais la formuler si la personne qui l'a dit, là, je pourrais la répéter pour les autres.
Bien sûr.
Oui. Toi, il fait part de la notion d'objecteur de conscience par rapport à la participation des médecins dans deux volets. Est-ce que ça touche uniquement les gens qui, dans le projet de loi, vont administrer le produit d'État, ou ça touche aussi, par exemple, aux psychiatres qui pourraient s'appeler à avoir une opinion? Deux, est-ce qu'à ce moment, ça va faire en sorte d'avoir une influence sur les habitants à la faculté de médecine? Par exemple, si on va poser la question aux étudiants, est-ce que ça va faire en sorte qu'on ne respectera plus ce droit d'objection de conscience si, par exemple, c'est l'étudiant qui a dit « moi, je suis contre ».
Alors, je vais répéter, c'est Dr. Stéphane Tanguay, l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui pose une question à deux volets sur la question de l'objection de conscience dans ce projet de loi-là. Alors, le Dr. Tanguay disait tout d'abord, est-ce que l'objection de conscience s'étend aux médecins qui administreraient l'injection létale? Est-ce qu'elle s'étend aussi aux psychiatres qui sont invités à participer à l'évaluation de l'aptitude? Alors, moi, dans la façon dont je la lis, bien sûr, ça s'étend à tout médecin dans le processus tel quel. Vous rendez compte que c'est une objection de conscience partielle, puisque de toute façon, disons-le de cette façon-là, là, j'en ai discuté avec mon DSP ici, mais le DSP ne peut pas avoir d'objection de conscience. C'est ce qui arrive en Hollande et en Belgique. Les chefs de département et les DSP ou les directeurs administratifs d'hôpitaux ne peuvent pas être objecteurs de conscience, puisque c'est voté dans les pays, c'est une loi, et le service ou l'acte doit être disponible. Donc, en pratique, le DSP, selon ce projet de loi-là, n'est pas objecteur de conscience et, en pratique, doit avoir une liste de médecins euthanasiaires dans son établissement. Ça revient à dire ça. Également, cette question-là remet tout en cause, selon moi, le grand principe d'accompagnement qui était une pierre d'assise de ce projet de loi-là. Parce que on a beaucoup voulu vanter, dire non, nous, ce sont des médecins, on accompagne le patient. Mais en pratique, un peu comme pour l'avortement, on s'est rendu compte, on se rendrait compte, c'est ça qui arrive en Belgique ou en Hollande, que peu de médecins acceptent de faire cet acte-là. Donc, ça devient, je ne dis pas une chasse gardée, mais disons un acte que peu de médecins acceptent. Donc, en pratique, dans un établissement donné, on aurait une demande d'euthanasie, le médecin dirait « moi, je ne me suis pas à l'aise avec ça », le DSP référerait à sa liste et un médecin viendrait, mais un médecin qui est inconnu du patient et il l'accompagnerait, entre guillemets, durant l'acte, qui, je vous rappelle, dure moins de 5 minutes. Alors, à mon sens, à moi, ça avait vraiment un peu une caricature de ce que devrait être l'accompagnement exemplaire en fin de vie dans des unités de soins palliatifs appropriées. Ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet de la question du Dr. Tanguay, à mon sens, est très important. Le Dr. Tanguay dit, est-ce que cette question-là de l'opinion ou d'objection ou favorable ou non à l'euthanasie serait un facteur qui pourrait être pris en compte dans les admissions en médecine selon, à ce moment-là, l'opinion favorable ou défavorable face à l'euthanasie qu'aurait le candidat ou la candidate en médecine. Alors, vous comprendrez bien que, en tout cas, moi, personnellement, évidemment que je ne serais pas favorable à cet aspect-là. Je pense que toute personne, d'ailleurs, dans la société, a le droit à son objection de conscience. Et puis, on n'est pas dans une dictature des esprits où on veut avoir des modèles de médecins qu'on réplique un après l'autre. Je pense que chacun arrive avec sa richesse propre et son expérience humaine propre. Et c'est une question qu'il faut souligner qui est fondamentale pour la conception du rôle de la médecine dans notre société. Et respectueusement, je suggérerais au Collège des médecins de réévaluer l'impact et l'importance que leur position très marquée en faveur de la légalisation de l'euthanasie a sur la façon dont le médecin perçoit sa profession et son exercice. Moi, je pourrais simplement dire à Dr. Tanguay que j'ai été invité le 13 mars par les étudiants de première année de la Faculté de médecine à l'Université Laval. Et je peux dire que les étudiants, en tout cas ceux qui se sont présentés, plus d'une cinquantaine, avaient des questions très pertinentes et des réserves très importantes face à leur formation et à leur rôle de médecin dans le contexte d'une légalisation éventuelle de l'euthanasie. Je veux rappeler également qu'on a quand même à date 600 et plus signatures de médecins qui se sont prononcés comme ne voulant pas faire de l'euthanasie, étant contre l'euthanasie. Et à date, je n'ai pas vu de signature de 600 médecins qui se sont dit favorables à le faire. De plus, moi, dans mes contacts, bien, c'est une vision personnelle, mais dans mes contacts de consultation liaison que j'ai fait à l'Hôtel Dieu de Lévis, qui est un hôpital où il y a près de 300 médecins, dans le grand C3S, à date, avec les divers professionnels et spécialistes à qui j'ai parlé, je n'ai pas rencontré de personnes qui sont enchantées et enthousiastes et anxieux de débuter les actes d'euthanasie. Plusieurs ont diverses réserves. Évidemment, on peut concevoir que les médecins ont toute une gamme d'opinions sur le sujet, mais je crois que les questions qui viennent d'être posées sur l'objection de conscience des professionnels, également sur un tri éventuel de candidats en médecine sur la base de leur opinion, est pour le moins préoccupante. Je pense que néanmoins, comme si cet acte-là devait être légalisé, bien, dans les centres universitaires d'enseignement, ce sera un acte qui sera encadré et enseigné comme tout autre acte. Alors, on a vraiment des questions à se poser comme médecin praticien et aussi comme médecin formateur et responsable de l'enseignement. Merci.
Nous avons une question provenant de la ligne du docteur Jean-Yves Saint-Pierre. À vous la parole.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Oui. Je m'excuse par avance, Joël Assoun. J'ai une demi-extinction de voix. Je remercie grandement le travail du docteur Primo dans ce sens-là parce que, tout comme vous, moi je suis bouleversée, mais je vais simplement m'attacher, pour ne pas étaler mes états d'âme, à quelques points qui vont permettre à nos collègues de s'interroger encore un peu plus malgré le grand apport que vous avez fait. À la page 5, quand vous soulignez que la question dans l'euthanasie, on s'entend bien, euthanasie, c'est euthanasie active, la notion d'intention, là aussi nous marchons sur la tête, la notion d'intention en poursuite criminelle, en droit pénal, est pourtant au cœur de l'action. Comment on peut se permettre pour commettre l'acte irréparable d'ignorer la notion d'intention. Je voulais souligner également le fait que comme c'est un... Tout ce que vous avez dit du soin et de l'enseignement, etc., comment les médecins que nous sommes, avec nos imperfections, allons-nous coter joyeusement l'acte de RAMQ qui va nous être payé quand il se sera agi dans les conditions que vous dites, de tuer quelqu'un. Troisième remarque, en ce qui concerne les soins palliatifs, je pense que ça n'est pas partout pareil dans la province, mais à Sherbrooke, au regard de nos peu de moyens, les soins palliatifs sont réservés aux seuls patients cancéreux, alors que l'euthanasie, si elle est légalisée, est prévue pour l'être pour une très vaste catégorie de diagnostics. Qu'est-ce qu'on peut penser de cela? Je voulais apporter à votre travail le travail remarquable de John Keane, que vous devez connaître, de 2002, qui a conduit, c'est un livre qui s'appelle « Euthanasia and Public Policy, an Argument Against Legalization », vous devez, et qui travaille sur 10 années de ce que la légalisation en, aux Pays-Bas, puisque c'est la plus ancienne, a amené de dérives et de points terribles et inacceptables. Je voulais, dans ce livre, on retrouve aussi qu'un territoire d'Australie a été celui de territoire de l'Ouest, vous devez le savoir, a renoncé après avoir commencé à envisager une légalisation au regard du fait en particulier que sur une si petite population, ça allait donner des chiffres invraisemblables. Je ne peux encore une fois que conforter tout ce que vous avez pu dire, mais je voulais, du haut de mon grand âge, apporter deux références un peu artistiques. En 1983, Imamura, le grand cinéaste japonais, avait fait un film phénoménal qui s'appelait « La balade de Narayama »,
oui.
Où, que vous devez connaître, où il s'agissait, je le dis pour nos autres collègues, qu'à partir d'un certain âge, eh bien, on conduisait les âgés en haut d'une colline, où ils étaient effectivement, on peut le penser, euthanasiés. Ce film avait ébranlé considérablement l'Occident, mais avec des critiques disant « oui, mais enfin, c'est des histoires de Japonais ». Eh bien, nous n'en sommes plus à des histoires de Japonais avec ce genre de phrases. Enfin, au regard de la question de la dignité, je m'excuse encore de ma voix, dans House MD, où souvent, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il ait souligné la différence de l'éthique par rapport à bien d'autres items et concepts humains. Il dit « Mourir n'a rien de digne », ce que je me permettrai de compléter par « Qu'est-ce que la dignité, qu'est-ce qu'on vient chercher en disant « Mourir dans la dignité », ce concept à propos de ce qui est la fin de la vie d'un humain. C'est pas que ça a quelque chose de digne ou pas digne, c'est que ce concept n'a rien à voir avec la question de donner la mort, puisqu'il s'agit de ça. Encore une fois, un grand merci pour votre engagement.
Merci beaucoup. Alors, vous avez soulevé plusieurs points. Je vais juste faire deux réponses brèves. Votre point très important au niveau de la notion d'intentionnalité, évidemment, comme une des bases de l'appréciation d'un acte au niveau du code pénal. Bien, tout le monde connaît la notion de meurtre prémédité ou non. Alors, vous avez tout à fait raison. Et de plus, même comme acte humain, tout à fait normal, hein? Un enfant de 5 ans qui casse un objet sait s'il l'a fait exprès ou non. Alors, méconnaître dans un rapport comme sur le sujet actuel de l'euthanasie, dans le rapport de la commission et dans le rapport des juristes, la notion d'intentionnalité m'apparaît un vice fondamental qui ébranle tout l'édifice. Deuxièmement, vous avez parlé de la balade de Narayana. Je rappellerai aussi, c'est intéressant, Watson and Crick, les deux prix Nobel pour la découverte, évidemment, de l'ADN dans les années 50, avaient dit à ce moment-là qu'à 80, il faudrait bien arrêter la vie humaine, qu'ils étaient à ce moment-là des partisans de l'euthanasie à 80 ans. Bien entendu, ayant eux-mêmes actuellement atteint ces âges-là, je suis pas sûr s'il y en a un des deux qui est décédé, bien ils ont changé d'idée. Alors, vous voyez que c'est vrai qu'on est soumis au contexte économique et avec les que j'ai souligné et avec la poussée démographique à se poser des sérieuses questions, mais tous les points que vous avez soulignés m'apparaissent très pertinents et je suis heureux d'entendre qu'il y a des échos de réserve et d'inquiétude à ce sujet et j'aimerais bien que nos décideurs ou ceux qui parlent en notre nom, que ce soit à la Fédération des spécialistes par exemple ou au Collège des médecins, entendent la voix des cliniciens sur le terrain qui, eux, ont des responsabilités cliniques directes avec leurs patients et qui, eux, entendent ses préoccupations et il se questionne sur le sujet d'un point de vue clinique et non pas de politique générale. Alors, je vous remercie beaucoup de votre question et de vos commentaires.
La prochaine question provient de la ligne du docteur André Lué. À vous la parole.
Oui, bonjour. Ici docteur Micheline Granger de Montréal.
Oui.
Félicitations pour votre conférence. Je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Pouvez-vous élaborer sur les arguments que le Collège des médecins apporte relativement au projet de loi?
Écoutez, si je parle de ce que j'en comprends du point de vue du Collège, premièrement, le Collège dit que donc ce qu'ils appellent, eux, ils prennent le vocable aide médicale à mourir, ils éloignent complètement le suicide assisté. Donc, l'aide médicale à mourir pour le Collège est un soin dans la gamme des soins, dans un continuum de soins. C'est un soin extrême, mais c'est un soin. Et ça, vous rappelez, ils ont commencé un comité de réflexion déjà avant 2009. Donc, j'essaie de prendre leurs pensées, là. Et puis, ils ont présenté ça comme un soin. Et il faut se rappeler que le Collège des médecins était à l'initiative de l'approche des parlementaires pour créer la commission. Et c'est ce qu'ils ont déposé. Ils ont été les premiers à être entendus en commission parlementaire le lundi 15 février 2010 en déposant leur mémoire de 4 pages et demie, en positionnant clairement l'euthanasie comme un soin. Et avec un soin dans la logique des balises. Et vous avez entendu, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que le secrétaire de notre collège, le Dr Robert, disait en entrevue en février 2014 que déjà pour lui, ce projet de loi-là, tel que rédigé actuellement, était simplement une étape qu'il fallait penser à un mécanisme, c'est déjà à l'étude au collège, d'après ce que j'en comprends, de réflexion pour l'accès à l'euthanasie de personnes avec Alzheimer ou les patients mineurs, donc en bas de 18 ans d'âge. Mais c'était surtout une logique de continuum de soins, ce que j'ai compris. Je ne sais pas si vous aviez la même compréhension, mais...
En fait, je ne peux pas dire si j'ai une compréhension de ça, parce que je ne comprends pas trop comment ça...
Moi non plus, je n'ai pas facile à comprendre, hein, non.
Merci.
Donc, je répète, si vous désirez poser une question, appuyez sur étoile 1. Si vous désirez la retirer, appuyez sur étoile 2. Nous avons une question qui provient de la ligne du docteur Jacinthe Rivet.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Dr Primo. Je vais vous féliciter pour votre présentation qui est, à mon sens, un outil pédagogique exceptionnel pour tout
psychiatre
en formation. C'est très clair, très rafraîchissant. Je voulais vous entendre, ça fait suite un peu au commentaire précédent. Quand on pense que l'euthanasie est un soin et qu'on pense qu'un médecin pourrait être appelé à évaluer l'aptitude à consentir à ce soin-là, vous en parliez au tout début. Vous savez, moi, dans ma pratique de consultation liaison au CHUM, souvent, on nous demande pour toutes sortes d'aptitudes. L'aptitude à quitter l'hôpital. J'ai déjà eu l'aptitude à faire une entrevue à TVA alors que le patient était délirieux. Donc, je me dis, quelles seraient les balises? Comment on peut réfléchir? Donc, est-ce qu'on pourrait penser que les critères de la Nouvelle-Écosse serait donc un référent conceptuel pertinent dans ce contexte-là. Est-ce que c'est vers là où on irait? Parce qu'on n'a pas vraiment, comme vous disiez, de ligne directrice. Et même si on prend les critères d'Applebaum américain, ça ne tient pas la route non plus. Alors, je ne sais pas si vous aviez des réflexions à ce sujet-là.
Alors, votre question est très pertinente. Et je voudrais d'une part vous dire que, premièrement, il y a dans le moment un groupe d'études à la MPQ ad hoc suite à la proposition du Dr Noiseux quand il était à l'exécutif de l'association, qui est dirigé présentement par la Dr Jessica Roy-Desruisseaux de Sherbrooke, et qui d'ailleurs sera un des éléments qui sera présenté, les réflexions de ce groupe, à la MPQ en juin, le 5 juin de 16 à 18 heures. Donc, il y a une réflexion, parce que évidemment, moi j'ai souligné ça, il y a une carence intellectuelle au niveau de l'absence de cadre conceptuel pour évaluer l'aptitude dans l'aptitude spécifique de demander la mort pour soi. Alors, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que les juristes, dans le rapport des juristes, et avec Maître Ménard comme auteur principal, ont justement dit qu'il n'y avait aucun problème pour évaluer cette aptitude spécifique avec les critères de la Nouvelle-Écosse. Il faut se rappeler, moi je ne suis pas un spécialiste dans la psychiatrie légale, mais il faut se rappeler qu'au Québec, les critères de la Nouvelle-Écosse, comme on les appelle familièrement, ont reçu une validation juridique par la Cour d'appel, si ma mémoire est bonne, en 1994, par un cas de l'Institut Pinel qui était amené devant la cour, où on avait la question d'un schizophrène qui prenait ou ne prenait pas sa médication. Donc, une situation, on pourrait dire, plutôt classique en psychiatrie. Il faut se rappeler de plus que ce qu'on appelle les critères de la Nouvelle-Écosse sont des critères de consentement généraux aux soins, un petit peu comme on fait, nous, quand tout patient est admis, là, puis qu'il doit signer la feuille de consentement aux soins. Donc, en Nouvelle-Écosse, comme pour tous les patients qui sont admis à l'hôpital, que ce soit pour l'exérèse d'un ongle incarné ou un autre problème. Alors, moi, à mon sens, un peu comme je semble discerner dans votre question, à mon sens, les critères de la Nouvelle-Écosse sont inadaptés à ce sujet-ci, puisque, vous comprenez, dans l'évaluation du risque ou du bénéfice, le risque c'est de tout traitement, c'est le risque ultime, c'est la mort, puis ici, le bénéfice avec l'euthanasie serait la mort. Alors, à mon sens, il y a vraiment, je ne vois pas, les juristes semblent trouver que ça va de soi, mais à mon sens, je ne vois pas, comme psychiatre, moi aussi, ça fait 25 ans que je fais la consultation de liaison, donc au lit d'un malade, évaluer son aptitude à demander la mort pour lui-même en me servant des critères de la Nouvelle-Écosse. Je trouve que, académiquement, les critères de la Nouvelle-Écosse n'ont jamais été appliqués à ce type spécifique d'aptitude. Alors, moi aussi, j'ai des réserves importantes et je crois que ça sera un des éléments de discussion qui nous incombe à nous, psychiatres, pour établir des lignes directrices pour nous-mêmes, nos collègues, et pour pas que des évaluations qui peuvent... Vous réalisez aussi un autre volet de ma présentation que je n'ai pas abordé, c'est l'instrumentalisation du rôle du psychiatre. J'en parlerai plus au mois de juin à l'AMPQ. Parce que vous rendez bien compte, il faut que le psychiatre ne peut pas simplement se voiler la figure puis dire, bien, moi, je fais mon évaluation d'aptitude en toute sérénité et dans mon rôle, et après ça, ça ne m'appartient pas, ça appartient au médecin traitant et à son patient. Parce qu'il faut être très clair. Le médecin traitant, l'oncologue, va demander, je dirais, là, quasi à 100%, une évaluation d'aptitude par un psychiatre. Et une fois que le psychiatre, par quelques moyens qu'on déterminera pour évaluer l'aptitude, aura dit que le patient est apte à consentir à demander la mort pour lui-même, le mécanisme va partir. Et puis après, les formalités juridiques, parce que dans le projet de loi 52, il y avait beaucoup de bureaucratie. Hein, il y a des formulaires à remplir deux fois, puis après ça, une fois le décès, il y a un autre formulaire qui doit être acheminé au DSP en dedans de 10 jours. Mais on se rend bien compte qu'une fois que le psychiatre aura donné son aval en pratico-pratique pour l'aptitude, la figure létale arrive au bout. Donc, je pense que le psychiatre a une responsabilité très importante dans ce cas-ci, ce qui fait aussi ressortir l'importance de la question du docteur Tanguay, plutôt à savoir ce qu'on appelle, l'objection de conscience ou, disons, les valeurs personnelles. Alors, mais votre question est centrale au niveau du rôle du psychiatre dans ce projet de loi-là. Quels critères d'aptitude vont être utilisés? Et à mon sens, je suis d'accord avec vous, ni Applebaum, ni les critères de la Nouvelle-Écosse me semblent adaptés pour ce type spécifique d'aptitude.
Merci beaucoup, très clair.
Merci.
La prochaine question provient de la ligne de Dr. Jean-Yves Saint-Pierre.
Oui, bonjour. William Seman, psychiatre. Aussi, je seconde mes collègues. Vraiment, félicitations pour cette excellente présentation claire, précise et vraiment, ça démontre un travail remarquable. Bon, merci. Vous avez parlé à la fin des idées progressistes que je l'ai vues là. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe français André Sponville, dont dernier numéro, je crois, de la revue française Philosophie a parlé en débat avec aussi Gervais, un médecin français, qui sont tous les deux dans le comité d'éthique français, sur la question d'euthanasie. Lui, il a parlé de la mort, il dit la mort en dignité. Lui, il a dit plutôt la mort en liberté. André Sponville, c'est-à-dire que la personne, il a le droit de s'étuyer. Même, il a parlé un peu du suicide, qu'il a le droit de se suicider. Alors, c'est ça, je comprends votre position maintenant, ce sera plus clair. Mais l'autre idée que je voudrais parler aussi de Marie Enzel, que vous avez parlé de son dernier livre, qui parle dans son dernier livre que le patient, au lieu que le médecin injecte le patient qui demande l'euthanasie, il doit s'injecter lui-même. Et dans ce cas, il a trouvé, Marie Enzel, qu'il y a pas mal de patients qui sont hésitants et qui renoncent à l'idée de l'euthanasie. Et dans ce contexte, alors il faut peut-être demander au patient de s'injecter plutôt que demander un tiers de lui faire. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça?
Alors, merci beaucoup de vos commentaires. Oui, voulez-vous la mort en liberté, hein, on se rend bien compte, c'est comme un peu la citation de Jacques Attali que je donnais en exergue. Bien sûr, ça correspond un peu à nos valeurs dans la social-démocratie. Vous avez même dit la mort en suicide, dans le droit de se suicider. Alors, dans les faits, bien sûr, le suicide est décriminalisé. Et moi, je dirais peut-être la mort en liberté, hein, peut-être, il faudrait inscrire ça, puis j'ai pas eu le temps de le faire dans ma présentation, dans une discussion plus vaste de la dignité, soit ontologique ou soit vue comme dignité-liberté ou dignité-décence. J'ai touché très rapidement. Votre autre point sur la possibilité d'injection par un tiers, c'était très intéressant parce que, voyez-vous, en Belgique, la loi dit, comme le projet de loi 52 l'aurait dit ici, que le médecin doit injecter la substance létale au patient. Et c'est très intéressant de constater qu'en Belgique, il y a près du tiers des cas où le médecin prescrit et s'en va, et c'est l'infirmière qui le fait, en contrevenant complètement à la loi telle qu'elle est écrite en Belgique, et en posant des questions éthiques aussi à l'infirmière. Alors, je pense que vous constatez aussi, quand c'est intéressant de voir que François Hollande, qui dans le moment vient d'essuyer, disons, un revers assez marqué au premier tour des élections municipales dimanche dernier, comme vous avez pu le constater avec le recul du vote socialiste dans plusieurs communes en France, mais aussi qui, depuis 2012, avait annoncé dans son programme, c'est intéressant de constater que cette mesure-là n'est pas encore, elle a été discutée, mais elle n'a pas été encore amenée au plan législatif. On constate bien sûr que ces questions-là fondamentales divisent la société, et un des points de mon propos, c'est de souligner, à mon sens, le manque de connexion, si vous voulez, d'adhésion à la société réelle ou aux cliniciens dans la société réelle par rapport à l'élite politico-médiatique et, disons, des ordres professionnels. Moi, je vois un certain manque de cohérence entre la réalité telle que les cliniciens le vivent. Je remarque que la majorité des propos ou des commentaires qui ont été faits suite à ma présentation soulèvent des inquiétudes, alors que les parlementaires qui amenaient, et je dois le dire, c'est l'impression, parce que moi je suis allé deux fois en commission parlementaire, c'est l'impression que j'en ai retiré, et avec grande inquiétude et interrogation, l'atmosphère était vraiment, je dis le mot euphorie, parce que c'est peut-être un petit peu exagéré, mais avec vraiment une atmosphère de que tout allait bien tourner, il n'y aurait aucune dérive comparativement aux autres pays, alors j'exprimais moi une réserve ou une inquiétude. Et quand vous parlez d'un tiers qui administre l'euthanasie, bien évidemment, là, c'est entendu que l'euthanasie telle qu'elle est décrite, c'est une action hétéronome faite par un tiers. C'est la frontière ou la marge étroite entre euthanasie et suicide assisté. Parce que dans les deux cas, le résultat et l'intention sont les mêmes, c'est-à-dire procurer la mort. Dans le cas de l'euthanasie, la responsabilité éthique ou morale du médecin est directe, puisque c'est le médecin qui injecte. Dans le cas du suicide assisté, la responsabilité du médecin est indirecte, puisqu'il il ne donne pas, il n'administre pas le produit létal, mais il l'a prescrit. Alors, mais je trouve ça intéressant qu'en France, malgré l'avoir annoncé dans le programme, déjà deux ans dans la présidence de François Hollande, et cette action-là ne semble pas être encore sur le radar des projets de loi, même avec ce que je viens de dire pour le premier tour des municipales, on semble même annoncer un remaniement ministériel qui pourrait même atteindre le premier ministre. Donc, on sent que l'équipe ministérielle, dans le moment, est vacille un peu au niveau du gouvernement français, ce qui ne donne pas à penser que l'introduction d'une législation sur l'euthanasie va être une priorité dans les semaines qui vont venir. Alors, je pense qu'on sent que c'est un sujet qui divise la société et, à mon sens, malgré la grande consultation publique qu'on a eue au Québec et où j'ai souligné que soit 59,5% des opinions exprimées dans les mémoires, etc., étaient contre, on a comme voulu coopter une opinion majoritaire ou consensuelle pour, qui me semble ne pas exister dans les faits. Alors, c'est ça qui me pose question, mais je prends note des différents points que vous avez dit, qui sont des éléments à considérer dans la discussion également.
Merci. Docteur Primo, il n'y a plus de questions. Désirez-vous ajouter quelque chose?
Je veux simplement remercier l'ensemble des participants et des centres et les questions très pertinentes qui ont été posées, je crois, et je suis heureux de constater, à mon sens, que ça témoigne d'un souci et d'un intérêt important de la part des professionnels en santé mentale et des psychiatres, et je suis heureux qu'on continuera à en débattre à la MPQ, et je remercie la MPQ d'avoir m'avoir permis de parler de ce sujet de société dans l'intérieur des téléconférences. Merci beaucoup.
Merci, Dr. Primo. Mesdames et messieurs, la conférence prend donc fin. Un grand merci pour votre présence et nous vous souhaitons une excellente journée.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.